There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
L'été 2023 commence sur CUT 89,5 FM. Et comme chaque année, Popourri Show vous invite à célébrer toutes les cultures du monde avec le festival Karazoka, reconnu comme le plus grand festival multiculturel du Canada. Au pavillon Afrique, les 27 et 28 mai prochains, Festival Karazoka. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre passeport qui vous donne accès aux concerts et à la gastronomie de plusieurs pays participants. Festival Karazoka, 27 et 28 mai prochains, au pavillon Afrique. Venez nous voir. Très facile d'accès avec des minibus qui nous transportent dans divers centres culturels à travers Mississauga. Retrouvez tous les détails sur karazoga.com ou popourishow.com. CUTFM vous souhaite un été mémorable. Écoutez les voix du monde, les voix de la francophonie. Depuis 1987, CUT 89,5 FM et Popourri Show, en partenariat avec RFI et France 24, produit et diffuse des émissions, des reportages et des interviews consacrées à la francophonie canadienne et du monde. Devenez membre ou partenaire de la seule et l'unique émission en langue française Popourri Show en faisant un don en toute sécurité en cliquant sur CIUT.fm. Chaque dimanche, soyez parmi les nôtres pour un voyage en francophonie aux quatre coins de la planète. En voici un extrait d'une de nos émissions spéciales. Merci à tous nos partenaires et abonnés CUT-FM, le son de votre ville, les voix du monde. De l'île paradisiaque de Djerba à la ville de Toronto, professeur Emmanuel Pichon-Wortmann, merci d'être des nôtres. Enfin, après ce long silence radio dû à la pandémie, comment allez-vous, professeur?
Très bien, merci et très heureuse d'être avec vous en direct ce matin.
Oui, juste quelques secondes avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que cette pandémie a changé ou bousculé un peu vos habitudes, que ce soit dans votre profession ou les activités, les cours au CREFO?
Oh oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Il a fallu repenser. Alors, au CREFO, on donnait déjà beaucoup nos cours en hybride, c'est-à-dire à la fois en ligne et en présentiel. Mais là, il a fallu qu'on repense notamment les conférences qu'on a toutes tenues en ligne. Mais ça a aussi été l'occasion pour nous de développer les podcasts, les balados dont vous avez parlé juste avant. Et qui, en fait, ont été un formidable développement pour nous parce qu'elles nous ont permis de diffuser ce que nous faisions au niveau de la recherche et les liens avec la communauté. Bien au-delà, non seulement des frontières de Toronto, mais de la province et même du Canada. Maintenant, on a des gens qui nous écoutent dans le monde entier et on leur est extrêmement reconnaissant. Donc il n'y a pas eu que des conséquences négatives pour nous, de très belles aussi conséquences qui nous ont forcé à repenser notre lien à la francophonie et à la diffusion des connaissances.
Dimanche 30 avril 2023. Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM, la radio campus de l'Université de Toronto. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader, qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Et pour écouter nos émissions, que vous soyez dans le monde, popourrishow.com. Eh oui, nous avons toute une émission pour vous, mesdames, messieurs, en ce dimanche de printemps, j'espère, avec des invités et des artistes exclusifs. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre un grand nombre d'activités de nos partenaires qui se déroulent sur notre territoire et ailleurs. Ce dimanche à 30 avril, la Société d'Histoire de Toronto vous invite à une randonnée, visite guidée, des 13 heures le long du parc Tommy Thompson, un espace naturel urbain, un parc reconnu comme une zone importante pour la conservation des oiseaux au Canada. Et à ne pas oublier l'Assemblée générale annuelle de la Société d'Histoire de Toronto prévue pour le lundi 8 mai. Il y a deux postes à combler au sein du CA, conseil d'administration, ceux du président et trésorier, pour un mandat de 2 ans. Pour en savoir plus, tous les détails sur sht.ca ou tout simplement popourrishow.com. Et un message à de nos amis les éditions Prises de Parole qui invitent nos amis de la péninsule acadienne au cabaret Accent Queer, et oui, animé par Samuel Larochelle le 17 mai prochain. Vous y retrouverez notamment Carl-Philippe Gionnet, pianiste et artiste pluridisciplinaire, les écrivains Pierre-André Doucet et Xavier Gould. Ça va être une soirée bien flyée, nous dit-on. Un événement présenté par le Rendez-vous de la Fierté Acadie Love. Et retrouvez les nouveautés littéraires des éditions Prises de Parole sur prisedeparole.ca. À votre tour, devenez membre ou partenaire de la radio et partagez vos annonces, projets ou activités culturelles communautaires à plus de 2000, 3000 abonnés, oui. Et ils sont nombreux, friands de la francophonie sur CUT-FM. Et oui, je vous invite, madame et monsieur, à un très beau printemps avec Triplets Ghetto Kids, 30 enfants pauvres qui vivent dans un orphelinat en Ouganda, sauvés par la danse et la musique. Ce groupe de jeunes enfants ougandais était au sourire après avoir obtenu la mi-performance de Golden Buzz au Britain's Got Talent 2023 le samedi 15 avril dernier. Triplets Ghetto Kids nous accompagnera tout au long du printemps et de l'été 2023. Ils sont merveilleux. Au menu ce dimanche, Emmanuel Kera de la librairie francophone était au plus grand événement littéraire de l'année, le Festival du Livre de Paris qui s'est tenu 21, 22, 23 avril dernier, avec comme invité d'honneur l'Italie. Nous ferons un détour avec TV5 Monde à la 47e édition du Festival bucolique et musical Le Printemps de Bourges, qui s'est tenu du 18 au 23 avril. Un festival qui a fait place à la jeunesse, la relève et la diversité à ne pas manquer dans la deuxième heure. Nous ferons escale à l'île Maurice avec un article dans le journal Le Mauricien, Les larmes du cardinal ou la fin du rêve mauricien. Un article qui fait le buzz. Des nouvelles et des activités organisées par la communauté catholique haïtienne de Toronto. Vous retrouverez tous les détails sur notre site popourishow.com. Mais pour tout de suite, vu la situation dramatique et difficile au Soudan, en Tunisie, je vous propose le magazine de France 24, Une semaine dans le monde. Et juste après, un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, originaire du lac Saint-Jean, Québec, qui fait le buzz en ce moment partout au Québec, Gab Bouchard, avec sa chanson Le Dépotoir. Le Dépotoir. Place à Une semaine dans le monde avec France 24.
Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24, consacrée aux grandes unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Patricia Alémonière. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Grand reporter, bienvenue en face de vous CAC qui est avec nous cette semaine. Bonsoir CAC, dessinateur et président de Cartooning for Peace. Ziad Limam est avec nous. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine avec Enjeu. L'exception Niger, donc il y a une interview du président.
Non, pas une interview, il y a une explication et un voyage sur ce pays très particulier qui est sur une ligne de front et qui est aussi une des dernières démocraties civiles du Sahel, de la région.
Donc un pays clé, voilà, ça c'est Afrique Magazine. En face de vous, Fabrice Rousseau. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Directeur de la rédaction de The Conversation France. Au sommaire, ce soir, le Soudan, bien sûr, où deux généraux rivaux se livrent à des combats proches d'une guérilla urbaine depuis une semaine maintenant. Entre 10 000 et 20 000 civils ont fui au Tchad. 70% des hôpitaux sont hors d'usage. Avec l'implication des puissances extérieures, les risques de déstabilisation régionale sont très sérieux. La Tunisie et la dérive autoritaire du pouvoir. Depuis que le président Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs, le chef d'Ennahda, Rached Ghannouchi, a été placé sous mandat de dépôt. Il a donc été arrêté. Depuis deux mois, une vingtaine de personnalités ont d'ailleurs subi le même sort. Pas de procès pour Fox News, c'est le troisième sujet de cette émission, mais un accord financier avec Dominion. La chaîne conservatrice va débourser 787,5 millions de dollars à l'entreprise de machines à voter, entreprise qui avait porté plainte en diffamation et accusait Fox News d'avoir relayé à l'antenne des rumeurs de fraudes électorales colportées par le camp de Donald Trump. Fox News paye cher, mais elle évite à son propriétaire, Rupert Murdoch, et à ses présentateurs vedettes de passer à la barre. Et puis, Emmanuel Macron qui s'est donné 100 jours pour agir au service de la France. Le chef de l'État a ouvert une feuille de route autour de 3 chantiers, travail, justice et ordre républicain. Ils étaient un peu plus de 15 millions de téléspectateurs lundi soir devant son allocution télévisée. Mais seule une poignée a été convaincue. On va y revenir. On va démarrer par l'actualité au Soudan, qui vraiment était l'actualité de la semaine. On en a parlé tous les jours, on en parle encore aujourd'hui et on va encore en parler, puisque le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, se livrent à d'intenses combats aujourd'hui d'ailleurs dans les rues à Khartoum, y compris dans le sud de la capitale. Plus de 400 personnes ont été tuées, au moins 400 personnes. Les États-Unis ont dépêché des militaires d'ailleurs dans la région pour faciliter une éventuelle évacuation du personnel de leur ambassade. Entre 10 000 et 20 000 civils ont fui au Tchad. On va écouter des réactions de la population à Khartoum.
Chaque minute, il y a une victime. L'électricité est coupée. Il y a des pillages, des vols. Tout cela se produit. Le pays est dans un état de chaos extrême.
Prouvé. Le plus gros problème, c'est que les gens ne peuvent pas aller plus loin que le bout de leur rue à cause des dangers. Ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer. Alors, tout le monde va dans les supermarchés à proximité, mais les aliments de base ne sont pas disponibles.
Patricia, c'est une lutte à mort entre ces deux généraux, enfin un général et un qu'on dit être général, même s'il n'est pas tout à fait général.
Et oui, c'est une lutte à mort. Ils se sont connus il y a très longtemps. Ils se sont connus dans le Darfour au moment des événements 2000-2003. Après, ils se sont retrouvés dans l'aide apportée aux Émirats qui combattaient au Yémen, puisque le Darfour a envoyé des soldats. Et c'était les hommes du général Daglo qui étaient là-bas. Moi, je les ai rencontrés sur le terrain, par exemple. En plein milieu du Yémen, à côté des Émiratis, vous aviez des Soudanais qui combattaient. Donc ces deux hommes, au départ, se connaissaient, ont fait affaire ensemble. Et puis là, ils se séparent à mort. Enfin, la bataille est à mort. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux profils complètement différents. L'un, c'est l'establishment de l'armée, avec qui a réintroduit effectivement des compagnons d'Omar al-Bashir, et puis aussi des islamistes, etc. Et l'autre, c'est pratiquement l'homme de la rue, du Darfour, le paysan, etc., qui a fait fortune, qui a eu sa milice. Et sa milice qui est devenue hyper compétente et très formée parce qu'elle a eu une double formation, celle des Émiratis et on en parlera sûrement, celle des hommes de Wagner aussi.
Ziad, donc c'est lutte à mort. Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment la fin parce que c'est à qui prendra le pouvoir finalement. C'est ça qui se joue.
Oui, ben d'abord parce qu'on ne voit pas très bien, vu ce qu'ils sont capables d'infliger à leur pays, on ne voit pas très bien sur quel territoire ils pourraient négocier. On parle quand même d'un pays qui est extrêmement fragile, qui est un pays très pauvre. Qui n'est pas un pays sans ressources, c'est pour ça que tout l'environnement extérieur. Non, il y a de l'or, il y a de l'eau, il y a le fleuve, il y a les ports qui sont sur la mer Rouge, port Soudan, c'est très important pour les Saoudiens, c'est très important pour les pays du Golfe. Il y a l'Égypte au nord, il y a le Tchad, donc c'est un pays qui concerne tout le monde. Et on comprend pas comment on a pu basculer dans un tel niveau de violence. Ce que je trouve absolument pétrifiant, c'est qu'il n'y a pas de sortie possible.
La Tunisie est la dérive autoritaire du pouvoir depuis que le président Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs. Le chef des Nardas, Rached Ghannouchi, a été placé sous mandat de dépôt. Clairement, il a été arrêté. Les autorités tunisiennes ont aussi interdit les réunions dans tous les bureaux du parti des Nardas. Depuis 2 mois, une vingtaine de personnalités ont été arrêtées dans le pays. La communauté internationale dénonce bien sûr une escalade inquiétante. On va écouter le président tunisien ainsi qu'un responsable politique au sein des Nardas.
Nous respectons la loi. Nous appliquons toutes les lois ainsi que toutes les procédures y afférentes. Nous ne voulons causer de tort à personne, mais nous ne laisserons pas l'État comme une proie entre leurs mains. La justice doit jouer son rôle en cette période que vit la Tunisie, afin qu'elle réponde aux attentes des Tunisiens et construise ensemble une nouvelle page de l'histoire de la Tunisie.
L'arrestation de Rached Ghannouchi illustre l'intensification de la politique répressive qui consiste à arrêter les opposants politiques. La loi sur le terrorisme est utilisée par Kais Saied et son régime en violation des droits des prisonniers politiques.
Ziad, Rached Ghannouchi, on peut dire que c'est un gros coup politique de la part du président tunisien parce que là, pour le coup, c'est vraiment le chef de l'opposition, le chef des Nardas.
C'est un coup politique complexe. C'est, comme vous dites, pas le chef de toutes les oppositions, mais c'est l'incarnation de l'islamisme politique en Tunisie. Il faut se rappeler des images très spectaculaires de 2011 quand il arrive à l'aéroport de Carthage et qu'il y a 150 000 personnes qui viennent le chercher après la révolution. Mais c'est aussi un personnage très, très controversé en Tunisie. Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec Ennahda. Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec Ranouchi. On lui fait porter l'échec des gouvernements post-révolutionnaires, cette espèce de république parlementaire où personne n'avait le pouvoir, où tout le monde avait le pouvoir et que les Tunisiens ont assez mal vécu parce que c'est quand même ça a été un moment de dégradation de leurs conditions de vie. Et puis il y a l'affaire des combattants djihadistes tunisiens dont on soupçonne qu'Ennahda, dans la première partie, parce qu'après il y a plusieurs parties dans l'histoire de ces 10-12 ans, aurait laissé partir ou aurait aidé à partir. Il y a les assassinats de Chokri Belaïd et M. Brahim. Et tout ça fait que sur les réseaux, par exemple, c'est très intéressant, il y a ces deux Tunisies qui parlent. Là, il y en a une qui dit c'est une atteinte aux libertés, il y en a une qui dit bon débarras. Et il faut vraiment comprendre ça pour bien voir comment joue Raïs Saïd, parce qu'il sait que sur une certaine partie de son opinion, il a une prise. Et l'autoritarisme, c'est très clair, la dérive, parce qu'il est dans sa mission, on en a parlé sur ce plateau, il est dans sa mission de reconstruire des institutions comme lui les imagine, et donc tous les autres, c'est ou des sociotraîtres ou des, enfin bref, donc il ne rentre pas dans le cadre. Et tout ça aussi.
Il y en a beaucoup qui ne rentrent plus dans le cadre.
C'est alors. Ça, c'est-à-dire que plus ça. Alors il y a des résistances encore, hein. Les syndicats, par exemple, UGTT, ne sont pas rentrés dans le cadre. Il y a une partie de la presse tunisienne qui n'est pas rentrée dans le cadre. Donc on voit que c'est un processus qui est en marche, qui n'est pas une histoire écrite et qui n'est pas une histoire terminée. Parce que le fond derrière tout ça, c'est une situation économique et sociale qui est extrêmement dégradée. Et donc, pour le moment, la population tunisienne est assez, j'allais dire, regarde tout ça avec une espèce de détachement presque surprenant. Parce que ces conditions de vie préoccupent avant tout comment vivre au jour le jour, l'inflation, l'école, le travail, le chômage, la dégradation, le FMI consigne pas, comment on va finir budgétairement l'année. Et donc tous ces inconnus sont posés sur la table. Et un président qui, lui, sait très bien, enfin, il trace. Il va vers là où il veut aller. Et pour le moment, il y a peu de choses qui lui résistent.
Fabrice, c'est l'échec de la révolution, là, pour le coup, puisqu'on parlait
Oui, aussi. Enfin, j'allais dire, il y a des similitudes, etc. Mais c'est, il trace, mais en même temps, on est quand même dans une dérive autoritaire qui est quand même assez marquée. Oui. Depuis le début de l'année, est assez clair, parce que on a les arrestations à l'intérieur du pays. On a des gens qui sont suivis à l'extérieur du pays. Donc, ça commence à être un peu difficile. On est quand même toujours sous régime d'exception en Tunisie.
Depuis les attentats.
Depuis 2015.
Mais depuis le coup de force de juillet 2021, il a quand même, voilà, c'est moi et puis après
il
moi.
Il s'est octroyé tous les pouvoirs, voilà, il a dissous le Parlement.
Et c'est vrai qu'il sait jouer de plein de choses, parce que la signature justement du fameux accord avec le FMI, parce que la situation économique en Tunisie, hein, c'est 16% de chômage, je crois, c'est
inflation
à presque 10%, c'est des gens qui commencent à avoir des pénuries, etc. Et il y a cet accord avec le FMI, puisque c'est, je crois que c'est 1,9 milliard d'euros, mais l'accord obligerait aussi la Tunisie à ne plus faire de subventions sur les denrées premières, à restructurer les organisations publiques. Donc il joue aussi là-dessus, parce qu'il sait très bien qu'après tout, il risque beaucoup à signer cet accord-là. Donc on est dans une situation qui, quand même, est explosive.
Mais il dit d'ailleurs qu'il ne veut pas signer l'accord avec le FMI. Oui. En même temps, il a envoyé sa numéro 2 à Washington, me semble-t-il, hein, pendant les réunions de printemps. Donc ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin du FMI, la Tunisie?
Ils ont besoin d'argent. Alors ce qu'on sait, c'est que le FMI est sorti, comme vous l'avez dit, avec des conditions qui seraient drastiques, effectivement, pour le pays, qui pourraient justement favoriser le mécontentement populaire, et donc ce n'est pas dans l'intérêt du président pour l'instant. Mais il y a les pays du Golfe qui sont venus à la rescousse et qui pourraient lui prêter. On fait des propositions. Il y a quelque chose qui se trame de ce côté-là.
Pour l'instant, je crois que les Tunisiens n'ont pas vraiment vu la couleur.
Non, n'ont pas vu la couleur, mais ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans cette dernière aventure de la Tunisie, c'est qu'on assiste à la fin d'un mouvement. Souvenez-vous, il y a eu toute une vague qui a porté l'islam politique avec les printemps arabes qui étaient nés après, etc. Et puis là, on assiste aussi bien au Maroc avec la défaite aux élections législatives. En Algérie, on n'en parle pas. En Égypte, il y a eu le coup d'État. Et il n'y avait plus que la Tunisie. Et on a l'impression que cet islam politique qui s'était développé durant toute une période contre, finalement, la gauche, etc., eh bien, cet islam politique est en train, pour des raisons différentes, hein, mais dans tous ces pays de l'Afrique du Nord, eh bien, complètement de s'étioler sous une forme ou sous une autre.
Ziad, vous êtes d'accord? Est-ce que ça se fait pas au détriment, finalement, du mouvement démocratique aussi?
Non, ça se fait au détriment du mouvement démocratique parce que les islamistes ont souvent joué l'ambiguïté, le loup et la chèvre et le loup.
Il a parlé de guerre civile. Hein, il parlait de risque de guerre civile.
Oui, il a parlé de risque de guerre civile si on les excluait du jeu, mais en même temps, on est assez stupéfait du très peu de réactions que son arrestation provoque dans la rue. C'est aucune, ou presque. Et puis l'islamisme politique a été défait, mais le conservatisme politique n'est pas défait. L'Égypte, c'est un pays conservateur. Le moralisme, le conservatisme, l'Algérie, c'est le conservatisme politique, les règles sociales. Enfin, l'islamisme politique s'est dilué dans une espèce de conservatisme d'État.
Et est-ce qu'Enarda, là...
Mais les Tunisiens voulaient quand même sortir de Ben Ali. On a l'impression qu'on revient vers quelque chose qui est similaire à Ben Ali, d'une certaine manière.
C'est un pouvoir politique avec un islam conservateur, mais qui est arrogé, qui est pris par l'État.
Je pense que le problème, il y a deux choses très spécifiques. D'abord, il y a des arrestations qui clairement devraient être, qui correspondent. Enfin, on comprend pas pourquoi, par exemple.
Donc c'est arbitraire, ça.
On comprend pas pourquoi Rehim Turki est pris sous les lois antiterroristes. On comprend pas pourquoi Nourdine Boutard, le patron de Mosaïque, est pris sous des lois antiterroristes. Ça, là, il y a un problème. La deuxième chose, c'est que il faut que les citoyens tunisiens, mais c'est la même chose en Égypte, c'est la même chose en Algérie, c'est la même chose au Maroc, il faut que les citoyens se réapproprient de nouveau la politique. C'est-à-dire le rêve révolutionnaire, il est détruit. Pourquoi ? Il est détruit parce que les conditions de vie au quotidien font que tout ce que vous nous avez vendu, la démocratie, le parlementarisme, ça c'est très sympa.
Oui, mais le président actuel,
oui, il a une vision, lui.
Réformes depuis 4 ans, c'est ça
quand je vous dis il trace, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, il trace, je dis simplement que dans sa tête, il y a une architecture constitutionnelle, il y a le pouvoir par la base, sa fameuse théorie, avec le guide, le pouvoir éclairé en haut, tout ça fonctionne, et on dégage tous les trucs intermédiaires qui empêchent de régénérer ces sociétés. Alors c'est très risqué, parce que, encore une fois, on ne s'adresse pas aux problèmes économiques, et ça peut mettre les gens dans la rue demain, parce que si... Il y a un problème alimentaire, s'il y a un problème de ressources graves, si l'État ne peut plus payer les salaires, c'est là que ça se pose. C'est là que la discussion devient importante.
Mais lui, il se réfère quand même, son homme auquel il se réfère, c'est quand même le deuxième imam, hein, c'est Khattab.
Oui, c'est pour ça que je pense
donc
que
on n'est pas hors
culture musulmane. Il faut pas se faire cette.
Mais c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Hein. J'ai dit que l'islamisme est pris par l'État. Et ce n'est plus les frères musulmans et leur vision de la société qui est...
Très rapidement, les frères musulmans et les islamistes politiques ont échoué sur le plan social et économique aussi de manière assez patente. Donc ils n'ont pas apporté de solution. On pensait qu'ils apporteraient des solutions magiques.
Mais alors quel avenir là pour le pays ?
Il y aurait quand même intérêt à avoir une opposition qui soit encore là avec le tête d'affiche, etc. Là, le problème, c'est qu'il fait table rase et il trace sa route.
Mais il n'y a pas de table rase.
Il y a
de l'autocensure, les gens font attention, mais tout ce qui a fait, c'est comme en Égypte, tout ce qui a fait la révolution, les idées sont là, elles sont chez les jeunes, elles sont chez les moins jeunes, elles sont chez les gens. Vous voyez, ça s'agite sur les réseaux, il y a des gens qui prennent des risques, qui parlent à la télé.
Donc c'est une évolution à l'égyptienne.
C'est une évolution, on n'est pas sorti du cycle révolution contre révolution qui anime le monde arabe depuis 2011, parce que c'est pas en 10 ans qu'on va recréer des sociétés, ou en 15 ans, qu'on va recréer des sociétés fonctionnelles dans lesquelles tout le monde se retrouve. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un processus historique où il y a de la lutte des classes, où il y a aussi des phénomènes de lutte des classes.
On est d'accord sur le diagnostic de fond, mais s'il n'y a pas de construction politique, s'il n'y a pas un rôle du Parlement, s'il n'y a pas une opposition politique, tout ça...
Non, mais je suis d'accord là-dessus. C'est ma perception.
Voilà. Et de fait, c'est un peu ce qu'on attend. Et ça fait un petit moment... Il n'est pas arrivé non plus, il y a 6 mois.
Mais il y a eu cet interview dans Tunisie.
Voilà. Et puis après, il a repris la main depuis... c'était juillet 2021. Et c'est vrai que depuis cette date-là, on peut se poser des questions quand même sur l'avenir du pays, la façon dont il construit justement cet univers politique et comment il veut mettre en œuvre sa vision du pays. Il ne peut pas la mettre en œuvre tout seul. Enfin, en tout cas, ça me semble compliqué. Il peut, mais c'est compliqué.
Merci beaucoup, CAC. Merci, Patricia Lémonière. Merci, Zia de Lima. Merci, Fabrice Rousselot. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Écoutez les voix du monde, les voix de la francophonie. Depuis 1987, CUT 89,5 FM et Popourri Show, en partenariat avec RFI et France 24, produit et diffuse des émissions, des reportages et des interviews consacrées à la francophonie canadienne et du monde. Devenez membre ou partenaire de la seule et l'unique émission en langue française Popourri Show en faisant un don en toute sécurité. En cliquant sur ciut.fm. Chaque dimanche, soyez parmi les nôtres pour un voyage en francophonie aux quatre coins de la planète. En voici un extrait d'une de nos émissions spéciales. Merci à tous nos partenaires et abonnés CUT-FM, le son de votre ville, les voix du monde. Bonjour, professeur Carole Fleuret. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, un grand merci d'avoir répondu à notre appel. Êtes-vous déjà allé à Djerba? Ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr. Non, j'ai pas fait Djerba, mais oui, je connais la Tunisie.
Suivez-vous un peu les délibérations de ce sommet? Comment expliquer ce manque d'intérêt de la part de nos francophones du Canada?
Alors, écoutez, c'est un grand débat. Je pense que pour le Premier ministre, on peut se questionner effectivement sur l'importance de la place du français au sein des communautés. Mmh. Oui, effectivement, je pense qu'il veut qu'il y ait quand même un certain nombre d'immigrants qui viennent au Canada, parce que c'est vrai qu'il faut le peupler, ce Canada. En Ontario notamment, on a besoin d'immigrants francophones pour aussi peupler les écoles de l'Ontario. Mais le problème, c'est qu'on sait pertinemment que le dernier recensement l'a extrêmement bien montré, justement. C'est qu'il y a quasi 81% des immigrants qui arrivent en Ontario qui choisissent l'anglais. Mais je pense que c'est pas eux qu'il faut pointer du doigt. Je pense que là où il faut se questionner, c'est sur la mobilisation que l'on fait à l'égard du français sur le plan des politiques qu'on met en place. En ce moment, on est là, on tergiverse avec la loi sur les langues officielles, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une analyse qui soit faite, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, pour proposer vraiment un plan qui concerne la relance des francophones.
France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF. Radio Télévision Suisse.
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone au Festival du Livre de Paris en public. Bonjour Paris! Nous allons vous faire vivre l'ambiance de cet événement phare depuis le magnifique stand studio de Radio France. Voici le sommaire de cette nouvelle édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
L'Italie est l'invité d'honneur de ce salon du livre incontournable en France et nous avons l'honneur de recevoir le diplomate et écrivain Maurizio Serra de l'Académie française. Depuis 2020, il est devenu le premier Italien à entrer sous la coupole depuis la création de l'Académie. Sur notre plateau, nous accueillons aussi Mario de Muraille, célèbre auteur de livres pour enfants et ados. Elle a obtenu le prix Andersen, le Nobel de la littérature jeunesse et elle publie un nouvel ouvrage autour des animaux. Tahar Benjelloun de l'Académie Goncourt est avec nous aussi pour son nouveau roman, un livre osé, teinté d'érotisme, féministe et militant, un regard acéré sur la société marocaine. Et nous commençons cette émission avec l'événement francophone de la semaine. C'est donc le Festival du Livre de Paris où nous sommes avec nos invités pour vous raconter aussi les coulisses et la petite sociologie d'un salon. Bonjour Mario de Muraille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Maurizio Serra.
Bonjour Emmanuel.
Comment se comporte un auteur sur un salon comme celui-ci? Est-il à son aise ou est-il contraint par les obligations et par les regards appuyés du public, Tahar?
Ah ben, un salon, c'est très important, ça fait venir les gens pour rencontrer les auteurs. C'est toujours bien un salon. Alors évidemment, il y a la séance de dédicaces, bon, ça c'est très français.
Ah oui?
Ben oui, mais aux États-Unis ça se passe pas comme ça, ni en Suisse d'ailleurs.
Bah en Suisse, si un peu, hein, pour vous dire, on fait des émissions aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe?
Oui, mais aux États-Unis, les auteurs lisent,
oui.
ils viennent, ils sont payés pour ça. Et éventuellement, ils signent quelques exemplaires qu'ils laissent dans la librairie.
D'accord.
Mais il n'y a pas ce système de faire la queue pour avoir une signature, etc.
D'accord.
Ça, c'est typiquement français. Comme le service de presse est typiquement français.
Le service de presse, c'est quand on envoie des livres aux journalistes, par exemple.
Qu'on ne connaît pas, et avec mon amitié.
Oui, ça vous plaît pas trop. Hein. Vous avez arrêté les services de presse, vous.
Oui, j'ai arrêté cette année.
Maurizio Serra, comment ça se passe en Italie?
Mais écoutez, on se sent très modeste dans tous les salons du livre.
Oui.
Je ne pense pas que l'ambiance change beaucoup d'un pays à l'autre. Mais il faut être cuirassé devant certains événements qui peuvent se passer. Je me souviens qu'au salon du livre de Turin, j'étais là l'année dernière. J'attendais et j'avais mes livres devant moi et personne passe, regarde le livre, le feuillette, me regarde et me dit « C'est bon ?» Je dis, écoutez, je l'ai écrit, à mon avis, oui, mais enfin, vous êtes ce juge, c'est peut-être un peu cher. Ah, on verra. Voilà. Donc, il faut se prendre vraiment pas trop au sérieux et comprendre que c'est une belle fête populaire où toutes les générations se rencontrent, tous les publics se rencontrent. Il faut faire partie de tout cela avec bonheur.
C'est difficile d'attendre l'électeur Marionne Muraille. Vous avez connu ça aujourd'hui, non, parce qu'il y a des files d'attente pour vous. Et oui, puis, vous avez des rencontres. Non. Mais quand on attend le lecteur, quand on est là et qu'on attend que quelqu'un vienne vous faire signer un livre, c'est compliqué?
Surtout, il y en a qui attendent depuis plusieurs années, puisqu'en fait, ils viennent souvent me dire qu'ils me lisent depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, et visiblement, ils n'ont plus 10 ans ou 11 ans. Et donc, je les vois s'avancer vers moi. Alors, je vais pas, c'est pas de la prétention, mais je sais qu'ils vont pleurer.
Ah bon?
Oui, ils ont des larmes dans les yeux. Et en fait, quand ils me disent « c'est vous », je sais qu'ils disent « c'est moi, c'est moi ». C'est-à-dire qu'ils retrouvent, ils reconnectent avec leur enfance, avec l'enfant qu'ils ont été. Je leur rends un morceau de leur histoire et ils pleurent devant moi.
Ah
c'est très très fort. J'essaie de me dire « nothing personal ».
Alors,
de façon
pas de phrase en anglais de Marianne Muraille dans la librairie
francophone. Voilà, c'est pas nous sommes francophones ici.
Oui, s'il
donc,
vous plaît.
Rien de personnel.
Mais vous...
Mais puisque c'est l'Italie qui est à l'honneur, je voudrais dire que les festivals italiens, c'est assez différent de ce qui se passe en France à Rimini, à Mantova.
Oui.
Parce que c'est organisé, quand c'est par les jeunes, c'est organisé par les jeunes. C'est comme si le festival de Montreuil, par exemple, était organisé par les jeunes.
Ah oui.
Là-bas, ce sont les jeunes qui présentent les auteurs, qui les prennent en charge, qui font la billetterie, qui font les émissions de radio là où vous êtes. Donc,
oui, voilà. Il faut prendre ma place, c'est ça? Ils ont repris ma place.
Tenez bon.
Oui.
Mais je parle des festivals jeunesse. Et je pense que ce serait une chose à imiter en France.
Vous avez raison. Pourquoi pas? Une co-animation déjà pour commencer. Tahar Benjelloun.
Une anecdote, il y a quelques années, au Salon du Livre, quand il était au Grand Palais. Enfin, l'autre Grand Palais.
Oui, le vrai, parce que ici on est au Grand Palais éphémère, parce que le Grand Palais est en travaux en ce moment pour tout expliquer à ceux qui nous écoutent à travers la francophonie.
Alors un monsieur arrive, et puis il me sourit comme ça, il me tend la main, il me dit « Vous m'avez reconnu ?» Je lui dis « Non ».
C'était qui ?
Je sais pas.
Ah d'accord. Quelle histoire géniale. Comment se comportent les lecteurs avec vous, Maurizio Serra ?
Eh bien, je vous le dis en général, très gentiment et très sympathiquement. On fait de belles rencontres et je suis reconnaissant de ces contacts qui sont parfois rares et que les salons du livre permettent d'avoir. À côté de cela, n'oublions pas la jalousie des auteurs.
Ah,
parce que par exemple, quand je vois les lecteurs devant le stand où il y a Tahar Benjelloun et je compte les miens, alors à la fin du jour, qu'est-ce qu'on va se dire? Qui a gagné? Lui.
Bon, il y a des libraires aussi ici, évidemment sur ce salon du livre de Paris, ce festival du livre de Paris, justement, nous en avons aussi, les voici. Et pour la France, c'est notre libraire Thomas Auxerre qui est venu presque en voisin depuis Puteaux, à côté de la Défense. Et bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Comment ça va?
Oh, ça va super, il y a du public, on est bien ici. Hein.
Et à Puteaux, ça va?
Ah, ça va plutôt bien.
Voilà, c'est ça, bien, s'il vous plaît. Respectons les traditions quand même. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez, vous, la Belgique, tout va bien à Bruxelles, vous êtes libraire dans la librairie du théâtre Le Public. En Suisse, c'est le retour de Claire Renaud. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, dans la librairie Atmosphère, où il y a une superbe ambiance. Et enfin, pour le Canada, c'est Josiane Nétourneau de la librairie Pauline à Montréal, qui est avec nous. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Très en forme Josiane, magnifique. Vous êtes presque avec nous, en tout cas le cœur y est. Merci d'être avec nous. Vous interviendrez tout au long de cette émission. Et on part en Italie, pays invité d'honneur de ce festival du Livre de Paris.
Coincidenza e destino, un gigante, un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge, per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora.
Maurizio Serra de l'Académie française est avec nous sur cette musique de l'italien Jovanotti pour fêter l'Italie. Vous connaissez Jovanotti, Maurizio ?
Pas personnellement, mais je l'écoute la très volontiers.
La musique très populaire en Italie. L'Italie, pays invité d'honneur donc de ce festival. Vous avez longtemps été diplomate auprès de l'UNESCO à Paris et de l'ONU à Genève et représentant défenseur de la culture italienne. Vous êtes actuellement chargé de mission pour le développement de la politique culturelle de l'Italie à l'étranger. Vous êtes le plus heureux du monde aujourd'hui, je suppose.
Oui, évidemment, parce que, vous savez, il y a eu un moment un peu plus difficile, si nous nous limitons au rapport culturel entre la France et l'Italie, et maintenant cela reprend depuis quelques années avec une très belle envergure, une très belle présence à ce salon d'écrivains de toutes tendances, de toutes origines, donc c'est très bien comme ça.
Alors comme chacun sait, Maurizio, l'Italie n'est pas un pays francophone, et dès que l'on passe la frontière, on constate que les Italiens ne parlent pas français en général, même du côté suisse, c'est timide. Il y a peu d'écrivains italiens de langue française en France aussi, cependant l'Italie est l'un des pays qui acquiert le plus de droits de traduction. Les principaux auteurs français sont très vite traduits en Italie. On lit beaucoup les auteurs francophones là-bas. Comment l'expliquez-vous ?
Eh bien, je pense que, si vous voulez, celles et ceux qui lisent, lisent beaucoup. Et donc sont très amoureux de la culture française et par conséquent veulent avoir le plus souvent la possibilité de s'approcher, mais de s'approcher en traduction.
Eh oui.
Je disais ce matin sur un autre plateau, pourquoi Proust, dont on a tellement parlé à cause de l'anniversaire, Céline ou Valérie ont été tardivement traduits en italien, tout simplement parce qu'on les lisait dans l'original français.
Eh oui.
Donc la traduction, c'est parfois un reflet également d'un manque de connaissances par la langue de l'autre culture.
Alors vous, Maurizio Serra, parfois vous écrivez en français, parfois en italien, vous alternez. Depuis 2020, vous êtes membre de l'Académie française, élu dès le premier tour au fauteuil de Simone Veil. Vous êtes le premier Italien depuis la création de l'Académie et vous aviez souligné cette lacune. Pourquoi lacune ?
Oh, je n'ai pas souligné la lacune.
Si, vous avez dit c'est une lacune.
Permettez-moi, je n'ai jamais permis.
J'ai lu ça dans la presse.
Simplement, ce n'est pas à moi de donner n'importe quel jugement sur cela. Vous savez, en plus, la nationalité, les statuts de l'Académie ne comprennent pas, évidemment, 1635, quand Mazarin, si vous voulez, un autre Rital comme moi, les avait déjà proposés, eh bien, il n'y avait pas de notion de nationalité.
Ouais.
Donc, il doit y avoir eu des Savoyards un peu italiens et un peu français qui se sont faufilés de la vie des trois siècles et demi de l'Académie.
L'air de rien, c'est ça, vous voulez dire. Bon, vous avez publié de nombreux essais et biographies sur des personnalités politiques, sur des événements historiques aussi. En 2021, vous avez même décrypté le mystère Mussolini avec une certaine mesure et une distance. Pour comprendre, il faut de la distance, il faut s'écarter des émotions.
Pour l'historien, c'est indispensable. Ouais. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il peut y avoir un conflit spirituel entre le créateur et l'historien. L'historien doit absolument tenir cette distance sine ira et studio. Je fais du latin, donc francophonie, on peut l'accepter.
Oui, bien sûr.
Alors que, évidemment, un créateur a la nécessité d'y mettre sa propre patte et cela peut changer la donne, oui.
Bon, prendre de la distance, c'est ce que vous faites une nouvelle fois avec ce nouveau roman Visiteur que je montre au public, qui prend la forme de trois histoires indépendantes comme ces novellas populaires dans les pays latins. Il y a cet ancien gouverneur d'un pays en conflit, exilé à Rome. Il mène une vie discrète, mais son passé le rattrape. Vous évoquez l'exil politique de certains dirigeants qui ne peuvent jamais s'affranchir du passé. Ils sont toujours rattrapés.
Mais écoutez, j'en ai beaucoup fréquenté au cours de ma carrière et même avant, parce que je dois vous dire que dans mon adolescence et ma jeunesse, une des choses qui m'ont attiré vers ce domaine et vers le modeste espoir de pouvoir faire quelque chose pour la conciliation internationale, je le dis à mon très modeste niveau, était l'exemple justement d'exilés que j'avais rencontrés à Rome, à Paris ou ailleurs. Et donc je me suis dit qu'il y a des destins qui ont été coupés, qui ont été laminés par l'histoire, et très souvent c'était des personnes de bonne volonté, comme mon personnage, qui aurait pu apporter quand même quelque chose si les circonstances historiques avaient été différentes.
Un homme de paix, ce personnage, dans son pays, le Michoumistan que vous avez invité, ce n'est pas pas un dictateur, mais il a laissé faire un massacre à cause de ses conseillers. Car, Maurizio Serra, on ne dirige jamais seul. C'est ça le problème des dirigeants, c'est ça le problème de la politique, l'entourage.
Mais écoutez, pour un diplomate, c'est très simple, avoir l'écoute de ses autorités, en espérant qu'il s'agisse d'autorités démocratiques, ouais, est la base de sa crédibilité. Un diplomate peut faire quelque chose en ce qui concerne les rapports personnels, les rapports même entre diverses administrations, mais il faut qu'il ait l'appui d'un gouvernement dans une ligne tracée de coopération internationale. Sinon, ça devient très difficile. Ouais.
Les amants de Casablanca, apparu chez Gallimard. Merci beaucoup, Tahar Benjelloun.
Merci,
merci,
à vous, merci
d'être fidèle à la librairie francophone depuis toutes ces années.
Merci, merci à vous, parce que votre fidélité m'émeut beaucoup.
C'est réciproque. Allons-y, la chronique des libraires.
Francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
RTBF, la première.
France Inter.
Alors que Christiane part du public. Au revoir, Christiane. C'est une dame qui est arrivée tout à l'heure. J'ai dit que je dirais son nom à l'antenne. Voilà. Au revoir, Christiane. Bonne journée à vous. La chronique des libraires. Donc, deuxième partie, un coup de gueule en Suisse. Claire Renaud.
Oui, Emmanuel, moi je suis profondément touchée et attristée par la fermeture de la librairie Le Rameau d'Or. C'est une librairie emblématique à Genève depuis 1978. Elle avait un excellent stock, c'était un havre de paix au milieu de la tourmente. J'y ai travaillé 16 ans, elle a fait ce que je suis devenue, une libraire qui a sa propre librairie. Son histoire culturelle et littéraire résonne encore aujourd'hui. Et moi, je ne peux qu'espérer encore qu'en mécène la fasse renaître.
Oui, il faut sauver le Rameau d'Or à Genève. La fermeture de certaines librairies est une catastrophe. Il y a beaucoup de librairies en danger. On va continuer à en parler dans cette émission, notamment la semaine prochaine, avec une librairie aussi en Bretagne, en France. Merci beaucoup, Claire. Un coup de cœur au Canada, Josiane Etourneau.
Oui, un coup de cœur pour les textes de Jean-Philippe Plot, rassemblés sous le titre « Au temps de la pensée pressée », en fait publié chez Lux. Alors, ce sont les éditos avec lesquels l'auteur clôt son émission de radio « Réfléchir à voix haute » sur la première chaîne de Radio-Canada. Ce sont des textes littéraires, sociologiques, mais aussi plus personnels, qui font revivre par moments son grand comparse, le magnifique anthropologue Serge Bouchard. Bref, c'est un livre riche, qui fait réfléchir et qui nourrit le cœur.
Au temps de la pensée pressée de Jean-Philippe Plot aux éditions Lux. Merci beaucoup, Josiane. On termine cette émission avec un souvenir en hommage à notre ami Jean Tellet. Il était là l'an passé, toujours caustique, drôle, provocateur et bienveillant. Jean Tellet était une perle qui nous manque beaucoup. Nous l'avions croisé lors d'un reportage autour de l'inauguration de ce Festival du Livre de Paris. L'ambiance était quasiment la même cette année, c'était jeudi soir. Mais sans lui, c'était bien différent.
Monsieur Tellet.
Autant lui, je l'aime, que lui, je l'aime pas du tout.
C'est qui, lui, que vous aimez?
Et il s'appelle Philippe.
Jean-Philippe.
Et Jean-Philippe. Et il est grand comme moi, et il est très sympa, très souriant, et il n'a pas un caractère un petit peu désagréable comme le vôtre.
Bah dis donc, sacré retrouvaille. Merci, avec une coupe de champagne.
Ben c'est à cause de ça que vous êtes en train de vivre un drame de l'alcoolisme.
Alors, j'étais en train de dire, un auteur qu'on connaît bien, qu'on retrouve au Festival du Livre de Paris, c'est Jean Tellet, donc vous l'avez entendu. Moi, j'étais sympathique avec vous. Ça va? Vous allez bien?
Mais oui, ça va. Surtout quand je vous vois, en fait, parce que je vous trouve très sympa.
Ah oui, ça a changé, du coup.
Mais maintenant que je sais que ça passe à la radio, vous savez que c'est un métier. Hein. Les gens, ils croient qu'il suffit d'être artiste. Mais non, c'est un boulot.
Vous n'aviez pas vu le micro, en fait, c'est ça? Ouais. Faites-moi croire ça. Le Festival du Livre de Paris, ici, derrière la Tour Eiffel. On voit la Tour Eiffel, justement, qui est juste là, à côté de nous, hein, du côté du Champ de Mars.
Et moi, ce que j'aime bien dans ce Salon du Livre, c'est que dans le précédent, la Porte de Versailles, il y avait les éditeurs, c'était comme ceux qui veulent faire voir s'ils ont la plus grosse bite et tout, où il y avait des colonnes pour faire Robert Laffont, machin, tout ça. Et là, tous les stands sont pareils, que ce soit un Gallimard ou un petit éditeur, c'est tout pareil. Et je trouve que c'est sympathique, c'est plus chaleureux, ouais.
Et avant de conclure, en pensant à Jean Tellet, le son de l'outre-mer avec l'artiste martiniquaise Bleu Satellite, fille de Marie-Josée Ali.
rentre le ventre, serre le reste, fine ou ronde, faut voir tes fesses en apnée dans ta robe. Dieu t'es belle au bout d'une laisse. In men are all, in men are I, in men are all. T'es une femme, meurs-toi une femme, reste sage et tiens-toi bien. Contour ombre, fonds et phares, peinture morte sur escarpin. Oh, in men are all.
Un extrait de Imena de l'artiste Bleu Satellite, originaire de la Martinique, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci au public de Paris. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous à la réalisation, David Leprince, avec les équipes de Radio France, de Rémi Gouriot et Alain Fauché, avec Lucien Lefebvre et Jérôme Casamayou. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère, avec Alice Rouet de France Inter et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Un grand merci aux auditeurs français pour leur fidélité renouvelée et accentuée. Selon les dernières audiences Médiamétrie, la librairie francophone reste numéro 1 en France, très très loin devant la concurrence, à son plus haut niveau d'écoute. Un grand merci, un million de merci. La semaine prochaine, nous irons en Arménie avec Fredo Burger et Aurel, et en Algérie avec Mehdi Charef, entre autres. Bon week-end, bonne semaine. Merci Paris, au revoir, à bientôt. Et la librairie francophone sera rediffusée à 1h du matin avec le bonus créole de Tahar Ben Jelloun. À suivre, affaire sensible autour d'un grand faussaire de vin.
Changer, ou ça restera ainsi. Sérieux est le danger, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemis. Blessés et enragés, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petit enfant d'un dur rempli d'une rage. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre fierté est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, fut se emprisonnée. Année après année, yo, oh, non.
On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
Regardez ce passe quoi, on le sent dans l'atmosphère. Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi, son visage est par terre. On crie à l'aide, l'amour n'est plus le remède. La honte est rendue le maître en dehors de mon aide, c'est la haine qui succède. Action et conséquence, une famille qui parle le deuil. Petit pays en souffrance, moi et l'âme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle, nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher, et
on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
Violence erronée, fierté menottée, futur emprisonné. Yo, on en a assez, tanné de crier. On est fatigué, on est écœuré. Yo, on en a assez.
On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Qu'est-ce qui nous unit, nous définit? Une langue. Ma langue. Que chacun aime à sa façon.
Mon langue.
Ma langue.
Ma langue.
Ma langue.
Unique en Amérique, elle est la somme de nos petites et grandes victoires. Ma langue se tient debout et devant. Elle n'oublie jamais qui elle est, ni d'où elle vient. Parce que ma langue est vivante, libre et fière. Elle dit tout de moi. Qui je suis et ce que nous serons.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. L'été 2023 commence sur CUT 89,5 FM. Et comme à chaque année, Popourri Show vous invite à célébrer toutes les cultures du monde avec le festival Karazoka, reconnu comme le plus grand festival multiculturel du Canada. Au pavillon Afrique, les 27 et 28 mai prochains, Festival Karazoka. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre passeport qui vous donne accès aux concerts et à la gastronomie de plusieurs pays participants. Festival Karazoka, 27 et 28 mai prochains au pavillon Afrique. Venez nous voir. Très facile d'accès avec des minibus qui nous transportent dans divers centres culturels à travers Mississauga. Retrouvez tous les détails sur karazoka.com ou popourichaud.com. CUTFM vous souhaite un été mémorable. Écoutez les voix du monde, les voix de la francophonie. Depuis 1987, CUT 89,5 FM et Popourri Show, en partenariat avec RFI et France 24, produit et diffuse des émissions, des reportages et des interviews consacrées à la francophonie canadienne et du monde. Devenez membre ou partenaire de la seule et l'unique émission en langue française Popourri Show en faisant un don en toute sécurité en cliquant sur CIUT.fm. Chaque dimanche, soyez parmi les nôtres pour un voyage en francophonie aux quatre coins de la planète. En voici un extrait d'une de nos émissions spéciales. Merci à tous nos partenaires et abonnés CUTFM, le son de votre ville, les voix du monde.
Eh oui, Popourri Show, 35 ans déjà. J'ai le plaisir maintenant, madame, monsieur, d'accueillir pour la première fois monsieur Fabien Hébert. Il est encore très méconnu de nos auditeurs. J'espère que son passage à notre émission lui donne un coup de pouce. Il est le nouveau président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Il succède à Carole Jelin, qui est passé régulièrement cette émission. Il a travaillé à titre de président-directeur général de l'hôpital Smooth Rock Falls de 2004 à 2018. Au fil des années, il a siégé à plusieurs conseils d'administration des réseaux francophones de santé du nord de l'Ontario. Bonjour, monsieur Fabien Hébert.
Bonjour, comment vas-tu?
Très heureux de vous recevoir pour la première fois à notre antenne. Ça fait plus de 40 ans que j'œuvre dans la communauté francophone de l'Ontario. J'ai même visité Hearst, c'est là où vous résidez, n'est-ce pas?
Exactement.
Et j'ai passé là plusieurs reprises, mais je ne vous ai jamais rencontré. Comment ça se fait?
Je pense parce que tu n'étais plus dans une tempête de neige que tu m'as dit déjà.
En effet, j'oublierai jamais ça. Poincé 4 jours pendant la tempête de neige. Mais vous savez quoi? Je garde un bon souvenir parce que c'était le jour où Nelson Mandela devenait un homme libre de sa prison. Donc j'étais dans ma chambre d'hôtel et je garderai toujours... Vous savez, il y a des événements qui arrivent comme ça dans votre vie, comme l'attentat à New York, ou encore la mort d'Elvis Presley, ou d'autres événements pareils. Alors moi, je me souviendrai toujours de Hearst, mais aussi je garde un bon souvenir. C'est une ville que beaucoup d'Ontariens méconnaissent, n'est-ce pas? Comment expliquer? Comment expliquer qu'on n'arrive pas à connaître, et même les gens ne sont pas intéressés. Il y a une université, il y a une radio communautaire. Vous, quoi, 80% de cette ville parle français, n'est-ce pas?
93%.
Eh ben.
Mais la distance est souvent notre ennemi, parce qu'on est quand même à 1000 km de Toronto, 1000 km d'Ottawa, 500 km de Thunder Bay, 600 km de North Bay. Donc, c'est un petit peu à l'extérieur des sentiers battus.
Vous êtes bien sûr CUT 89,5 FM. Vous écoutez Popourri Show, la radio de l'Université de Toronto. Faites un don aujourd'hui en suivant le lien qui se trouve sur notre site web popourrishow.com ou CUT.fm et cliquez sur le bouton Donate et veuillez indiquer l'émission Popourri. Merci de votre fidélité. Et parmi les buzz de nos médias partenaires et nos partenaires communautaires, les fonctionnaires fédéraux veulent doubler la prime au bilinguisme de 800 à 1500 dollars. Ces fonctionnaires sont principalement des travailleurs de l'Agence du revenu, du Conseil du Trésor, mais aussi de divers ministères comme Service Canada ou encore à l'immigration. Le Comité permanent des langues officielles du Sénat réclame la mise en place d'un programme d'immigration francophone distinct, une demande déjà portée par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et sur le site de Radio-Canada, une publicité pour recruter des enseignants francophones truffés de fautes de français. Au Soudan, les combats font rage, les ressortissants canadiens, américains et français évacués. Tensions politiques au Sénégal. Amadou Sall, ex-ministre sénégalais de la justice, affirme qu'il n'y a pas de complot contre Ousmane Sonko, principal opposant du président Macky Sall. Et au Mali, le chef du cabinet du président de transition parmi les 4 morts dans une attaque à la semaine dernière. En France, 10 ans après le mariage pour tous, Paris détient le record des mariages LGBT dans l'Hexagone. Mais qu'en est-il dans les territoires d'outre-mer? À Popourri Show vous réserve une émission spéciale avec des invités français et antillais très bientôt. La communauté catholique haïtienne de Toronto vous invite à un gala de commémoration pour marquer le 220e anniversaire du bicolore, le drapeau haïtien. Le gala se tiendra le samedi 13 mai à 18h à la paroisse Saint Elizabeth of Hungary, située au 432 Shepherd Avenue Est. Cette soirée sera agrémentée de la bonne musique haïtienne, des repas laqués, un concours de meilleures tenues haïtiennes et quelques tirages. Pour plus d'infos, veuillez communiquer avec Max Charleston au 905-992-0294, je répète, 905-492-0294 pour l'achat des billets. Ce message est disponible sur popourrishow.com. Les larmes du cardinal ou la fin du rêve mauricien, c'est un article signé Gillian Geneviève dans le journal Le Mauricien le 18 avril dernier. Cet article a fait suite du message du cardinal Piat lors de son homélie à l'occasion du dimanche des rameaux sur la chaîne Créole. Le chef de l'église catholique est d'avis que tout le monde cherche la paix dans le pays. Il a dit, et je cite, « Je pleure lorsque je vois l'indépendance de nos institutions être menacée. De quelle façon pouvons-nous avoir la paix dans une démocratie lorsqu'il y a un manque de respect pour la séparation de pouvoirs ?» Commentant la chanson controversée scandée au Collège Royal de Curepipe qui avait suscité de vives polémiques, le cardinal Piat se demande comment avoir la paix lorsqu'une communauté est insultée par un chant méprisant à son encontre. J'avoue que je suis triste et inquiet pour mon pays lorsque je vois que l'injustice et la corruption sont tolérées. Et oui, malheureusement, le gouvernement mauricien a vite monté au créneau pour condamner le cardinal Piat et qui, selon lui, est allé un peu trop loin. Résultat, après 30 ans au service de l'Église catholique, le cardinal a annoncé sa démission dans les mois à venir. L'auteur de l'article, Gillian Geneviève, écrit « Nous devons absolument nous ressaisir. La situation est grave, mais il y a encore en chacun de nous une lueur, un embryon de ce que pourrait être ce Mauricien, fier de l'être, fier de ce pays, ayant eu une histoire fabuleuse. Les larmes du cardinal ou la fin du rêve mauricien », article à retrouver sur notre site web popourichaud.com. Et un peu plus tard dans cette heure, petite balade en musique avec le Festival du Printemps de Bourges, TV5 Monde. Que se passe-t-il avec Lazara, la voix de la France, au prochain concours Eurovision? Mais pour tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques avec Radio France Internationale. Popourri Show, 36 ans bientôt, et au service de la francophonie torontoise. Bon appétit si vous êtes à table.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
On présente le rendez-vous d'Haïti et des Américains. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Joe Biden est officiellement candidat à un second mandat, 4 ans de plus à la Maison Blanche pour terminer le boulot, dit-il dans son tout premier clip de campagne. Nous appellerons dans un instant notre correspondant à Washington. Au sommaire également, la flambée de violence hier dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Nous serons en ligne avec le directeur d'Alter Press en Haïti et le chercheur Frédéric Thomas pour parler de cette crise sans précédent. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand parlera avec vous du crash aérien du 16 août 2005. De nouveau examiné par la justice aujourd'hui.
Oui, par la cour d'appel de Fort-de-France. 18 ans, c'est long, c'est même très très long. Mais l'association qui représente les 152 victimes martiniquaises se dit prête à aller jusqu'au bout.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'exaspération d'habitants de Port-au-Prince. Sans attendre la police, certains ont préféré se défendre eux-mêmes hier face aux gangs. À Turgeau, Paco, à Canapé Vert, les armes sont dérisoires, mais une partie de la population ne voit plus d'autre option face à des groupes armés qui cherchent encore à étendre leur contrôle sur la ville. Témoignage d'un habitant de Debussy.
À hasard d'un moment, moi-même, j'ai cru que mon tour allait arriver. Qu'est-ce que j'observais? J'observais les bandits qui défonçaient les barrières, qui attrapaient les gens, qui les frappaient violemment, qui pillaient les maisons, qui incendiaient les voitures, les maisons également, qui volaient des voitures. Tout ce qu'il y a, j'ai vécu ça avec un stress énorme et avec la peur au ventre. Donc c'était pas évident, c'est ce que j'appelle l'enfer.
L'enfer, c'est aussi le titre choisi par Alter Press pour désigner la journée d'hier. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Vous êtes le directeur de l'agence Alter Press et vous revenez sur votre site sur cette flambée de violence dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince et cette nuit encore à Canapé Vert.
Et là, je viens de parler à des gens du côté de Paco. Ils rapportent qu'un calme précaire prévaut ce matin dans ces quartiers qui ont subi l'assaut de bandits armés. Jusqu'en fin d'après-midi, hier, de nombreux riverains tentaient d'abandonner leurs maisons à Debussy et dans d'autres quartiers avoisinants. Les familles qui restent sur place craignent une brusque détérioration de la sécurité à nouveau en dépit d'une intervention musclée de la police hier. En fin de journée, la police a annoncé que des bandits ont été pourchassés, plusieurs d'entre eux tués. Des armes à feu ont aussi été saisies.
Est-ce qu'il y a beaucoup marqué évoqué hier, Godson Pierre, c'est la réaction de certains habitants qui se sont violemment opposés aux gangs. On l'a entendu il y a quelques minutes avec des extraits sonores de ce qui s'est passé à Port-au-Prince. Certains ont pris les armes qui leur tombaient sous la main pour se défendre.
Oui, on peut même parler d'un élan de résistance et de colère surtout. Aussi, des riverains à Canapé Vert, par exemple, ont lynché puis brûlé les corps de plus d'une dizaine d'individus armés montés à bord d'un minibus. Ils étaient environ 14 et seraient venus en renfort aux malfrats qui terrorisaient Debussy, selon des témoignages. Le lynchage a eu lieu après leur arrestation par des agents. La police informe avoir confisqué des armes et d'autres matériels lors de la perquisition du minibus dans lequel se trouvaient les individus armés.
La police haïtienne, elle annonce aussi la mort du chef de gang appelé Timakak.
Ouais, le bruit courait depuis quelque temps. Un porte-parole de la police a confirmé en effet la mort le 9 avril dernier du chef de gang Carlo Petit Homme dit Timakak. Il est basé à La Boule dans les hauteurs de Pétionville en périphérie est de la capitale. Des opérations policières sont toujours en cours là-bas. La police n'a pas communiqué cependant d'informations sur les circonstances de la mort de Timakak.
Merci Godson Pierre, directeur d'Alter Press. On retrouve toutes ces informations sur votre site internet. Et pour continuer à parler de cette situation de plus en plus difficile, nous sommes en ligne avec Frédéric Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Chargé d'études au centre tricontinental à Louvain en Belgique, vous avez écrit « L'échec humanitaire, le cas haïtien » qui est paru aux éditions Couleur Livre. Alors on l'a évoqué rapidement avec Godson Pierre à l'instant. Hier, certains habitants ont lynché et brûlé des bandits qui se trouvaient à bord d'un bus, donc des personnes qui avaient déjà été arrêtées par la police. Est-ce qu'il faut y voir, selon vous, le signe d'une absence de confiance dans la police ou bien une vengeance contre ces groupes qui mettent la capitale, certains quartiers en tout cas, à feu et à sang?
Je pense qu'il faut y voir, comme l'a dit Godson Pierre, à la fois une exaspération et une colère envers une situation, aussi une exaspération par rapport à un sentiment d'abandon par rapport à l'État dont on n'attend plus rien, et donc l'obligation pour ces Haïtiens de réagir par eux-mêmes, de se défendre par eux-mêmes et de réagir violemment. La difficulté, c'est qu'à cette forme de, on peut dire, de privatisation populaire de la violence correspond une privatisation de la violence par le haut, c'est-à-dire l'utilisation des bandes armées par la classe politique et des hommes d'affaires pour asseoir leur pouvoir et mettre en place une forme de gouvernance par la terreur depuis 2018.
Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, à voir ce type de réaction de la population se multiplier ?
Oui, parce que de fait, la police se montre incapable et même peu désireuse de se confronter à cette violence. Le gouvernement brille par son absence. Il ne gouverne que par des tweets et par des déclarations vaines et sans effet sur le terrain, voire par un mépris. Donc la population sent qu'elle n'a d'autre alternative que de fuir cette violence qui ne cesse de gagner du terrain ou de la combattre par ses propres moyens, fussent-ils dérisoires.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'engrenage aujourd'hui, après les actions d'hier, surtout si ce type de violence se multiplie, est-ce qu'il n'y a pas un risque de représailles de la part des gangs contre la population ?
Mais le risque est déjà présent et l'engrenage n'a cessé de monter en puissance ces derniers mois. À chaque fois que la population a essayé de se barricader, de se défendre, de se protéger, ou lorsque la police est intervenue ponctuellement, une fois que la police se retirait ou une fois que la population était seule, elle a fait face à des représailles par ces bandes armées. Ces bandes armées fonctionnent par la terreur. Donc, de toute façon, oui, on est déjà dans l'engrenage. Et l'engrenage, malheureusement, il est alimenté par un gouvernement qui entretient cette violence et cette impunité, un gouvernement qui bénéficie toujours du soutien inconditionnel de la communauté internationale.
Puisque vous nous parlez du gouvernement, j'aimerais qu'on dise un mot du message du Premier ministre hier. Voilà ce qu'il dit. J'applaudis les efforts considérables et méritoires de la police nationale pour faire revenir l'ordre et la paix. Il y a encore beaucoup à faire. Le gouvernement, par ma voix, présente ses sympathies aux policiers blessés lors des dernières opérations. Pas un mot pour les victimes civiles, pas de commentaire particulier sur cette situation qui est quand même inédite. Il y a quelques jours, la presse parlait d'Ariel Henry comme d'un Premier ministre hors sol. C'est aussi votre sentiment, Frédéric Thomas ?
Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a quelques jours, il a, lors d'un sommet international de la finance, il a dit que c'est la sécurité était de la responsabilité de l'État haïtien, et il a appelé à promouvoir le tourisme en Haïti. Donc, on voit quelqu'un totalement déconnecté de la situation. Mais je pense que cette déconnexion, elle renvoie aussi au fait que le gouvernement haïtien ne représente pas les Haïtiens et les Haïtiennes, mais bien la communauté internationale. Donc ces déclarations et ces prises de position sont adressées à la communauté internationale et pas au peuple haïtien.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
18 ans après les faits, la Cour d'appel de Fort-de-France va se pencher une nouvelle fois ce mardi sur le crash aérien du 16 août 2005.
L'accident d'avion au Venezuela qui avait coûté la vie à 152 Martiniquais. L'audience de décembre dernier avait tourné court, les avocats de la partie civile, l'association des victimes, ayant quitté la salle. Audrey Govinda.
5 ans après l'annonce du non-lieu, les 152 familles attendent la condamnation des coupables dans cet accident d'avion sans précédent pour la Martinique. Alex Ursulet, l'un des 6 avocats de l'AFCA, estime que les proches des victimes ont déjà subi trop d'humiliation.
Je dis qu'à la Martinique, il se passe des choses qui ne sont pas claires et que ça se passe au préjudice de Martiniquais. Que ce soit dans cette affaire ou dans l'affaire du chlordécone, ce n'est pas normal.
Et si on vous retrouve demain, et merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous à 13h10, temps universel.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Pour nous vaincre.
toujours mon Dieu fait, ces lumières baillons, nous combattons tout le temps.
Seigneur qui plie bon, et puis c'est où qui va bon.
Les bonjour, la vie est belle, mais les bonjour, ils sont malinaires.
Quand ce soir, le peu on est propre, on dit la sous cagon.
Les bonjour,
au lieu où me j'ai travaillé, puis il est acheté.
Les
bonjour, pas jamais ton nom mal parlant, parler quand il m'a lu.
Les bonjour,
bien bon, je viens tout, tout va y en nous caoubler.
Pas venir pour nous pour courir en pays nous.
Yo bava, Tanzio.
On doit conduire ce projet avec des objectifs généraux qui se déclinent en objectifs opérationnels, en posant à chaque étape des critères d'évaluation à vérifier à court, moyen et long terme, dans une méthode qui s'inscrit dans la transversalité des actions. Pourtant, nous dire, dis-moi qui paye, qui fait nous, si c'est pas Martinique, chérie. Et puis on pile sacrifice.
Respect basan, c'est
on nous pensait pas comme on s'en. Sans pièce qu'à des flots d'avis. Ma vie dit mérite cela, oui.
Simé Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Simé Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête.
Vous êtes 167 000 en moyenne à regarder chaque jour Martinique Première, numéro 1 en audience cumulée. Merci de votre confiance.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Kader. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir Epsi, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Depuis le vaste ciel de Sudbury, la maison d'édition Prise de Parole amplifie les histoires émanant des marges. Et oui, les livres du jour aujourd'hui, deux ouvrages fort intéressants. Rome, du comédien, poète, romancier, dramaturge, traducteur et scénariste, très connu en Ontario, au Canada, Jean-Marc Dalpé. Une pièce de théâtre, Rome, un fabuleux travail d'adaptation et de réécriture des 5 tragédies romaines de Shakespeare pour en tirer une œuvre nouvelle. Jean-Marc Dalpé redécoupe les pièces pour faire de Rome un voyage tumultueux qui prend racine dans la tyrannie, bascule dans une république balbutiante, s'érige en empire puis s'effondre dans le chaos sanguinolent. Avec verbe et acuité, Jean-Marc Dalpé donne corps à une époque impitoyable qui résonne encore férocement aujourd'hui. Le deuxième livre, M projette d'écrire une nouvelle. Eh oui, un ultime recueil de la romancière, nouvelliste, poète, essayiste Marguerite Anderson, décédée en 2022. Marguerite Anderson complète une démarche d'autofiction entamée en 1982 avec De mémoires de femmes. servi par un savant dosage d'ironie et de tendresse. M projette d'écrire une nouvelle, réaffirme la volonté de l'autrice de sculpter sa vie, mais aussi d'imaginer celle de ceux qui l'entourent avec toujours cet objectif d'en saisir l'inscription dans le monde. En trois mouvements, celle qui avait choisi de faire de sa vie un texte littéraire donne ici à lire un parcours qui s'étend sur près d'un siècle et trois continents, qui s'ouvre sur sa jeunesse dans cette Allemagne nazie qu'elle a fui dans la honte et s'incline doucement vers des réflexions sur la vieillesse et la perspective de la mort. Ces deux ouvrages sont maintenant disponibles sur prisedeparole.ca. Les éditions Prise de Parole, 50 ans déjà, aux côtés des auteurs et autrices en Ontario et au Canada.
TV5Monde.com, c'est tout TV5Monde et bien plus encore.
Retrouvez le guide des programmes traduit en 5 langues.
Découvrez les bandes annonces de vos films.
Visionnez où vous voulez et quand vous voulez vos émissions favorites.
Restez connectés à l'information avec toute l'actualité internationale en direct, nos JT et dossiers multimédia.
Voyagez avec un site 100% Afrique.
Visitez toutes les cultures du monde.
Consultez la météo.
Interrogez notre dictionnaire.
Vibrez sur toutes les musiques du monde.
Apprenez et enseignez la langue française.
Jouez et gagnez des cadeaux avec nos quiz et nos concours.
Voyagez, découvrez, partagez. Tous les mondes se rejoignent sur tv5monde.com.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde ? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité ? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Aujourd'hui, je me suis réveillée près d'un ruisseau. J'ai pris mon café avec le bruit des oiseaux. Jusqu'au fond, yeah. J'ai tout pour toi, j'ai tout pour moi, yeah. J'ai tout pour toi, j'ai tout pour moi, yeah. J'ai tout pour toi, j'ai tout pour moi, yeah. J'ai tout pour toi, j'ai tout pour moi, yeah. Pense encore à ces jours où tu ne connaissais pas ton nom ni ta place. Tes jours s'effacent derrière toi, la lumière se fait rare. Partir, s'enfuir, t'écris.
rappelle à ton souvenir.
Ai, maman, voilà le voyage.
Adrabella cosa, adrabella cosa, ding et don.
Non, ding et don.
Écoutez la planète chanter.
Et oui, c'était Ruisseau, très belle chanson du franco-ontarien, le DJ Houppier, avec la belle collaboration de Chloé Doyon, auteur, compositrice, interprète de Saint-Georges. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ces deux travaillent ensemble. DJ Houppier joue sur la scène ontarienne depuis quelques années, et puis son influence, tenez-vous bien, à Toronto. Son but, faire danser le monde en français, s'il vous plaît. Le 1er mars, il a joué un set de 3 heures avec 24 artistes franco-ontariens et quelques Québécois. Il collabore régulièrement avec plusieurs artistes canadiens et européens. J'adore ce qu'il fait. Sa nouvelle chanson, première de son 3e album, sortira en mai prochain. À surveiller sur toutes les plateformes numériques. Côté Eurovision, ça va mal, les rumeurs vont bon train. La Québécoise Lazara a perdu sa voix. La candidate de la France à l'Eurovision le 13 mai prochain dans la tourmente depuis l'annulation de son concert à Amsterdam. Et oui, rappelons qu'avant l'Eurovision, elle a quand même été disque de platine avec un titre « Tu t'en iras ». Quelques 20 millions de vues sur YouTube, ce qui lui a valu cette même année 2021 d'être nommée parmi les révélations francophones aux Energy Music Awards. Et oui, la Québécoise Lazara, madame, monsieur, qui représentera la France au concours Eurovision. Et oui, prévu le mois prochain à Liverpool, au Royaume-Uni. À surveiller. Et juste après Lazara, vous entendrez clap de fin pour le printemps de Bourges. Quelques montages de nos amis et de DJ Devora. Cette 46e édition du Printemps de Bourges, qui s'est achevée dimanche 24 avril dernier, après 2 années perturbées par la Covid, c'était le retour à la normale et les festivaliers ont répondu présent. Plus de 200 000 personnes sont venues faire la fête dans les rues de Bourges. Une semaine de fêtes et de concerts avec des jeunes artistes de la diversité et une bonne ambiance avec des concerts dans les bars, dans les rues. On a pu voir une édition normale, exceptionnelle, sous le soleil pendant toute une semaine. Nous entendrons quelques voix de ce rendez-vous. Eh oui, festivalier avec des artistes invités et un reportage de TV5 Monde. Allez, place à la chanson, évidemment, de Lazara, qui représentera la France le mois prochain à l'Eurovision. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop. Je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main, dans ma tête ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel.
j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter, à chanter la grande France.
C'est toujours faux, faux pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment,
c'est ce que tu vois.
Ah oui.
Ok, je sens que vous avez envie de chanter, mais vous ne connaissez pas le texte. Ça vous frustre, je vous l'apprends tout de suite, ne vous inquiétez pas. C'est ça, c'est que tu vois l'enfant qu'il y a en moi. Ça, c'est que je vois l'enfant qu'il y a en toi. Faut pas être dyslexique, c'est juste ça. Pour assumer ce geste un peu improbable, vous faites ça, de façon presque avec beaucoup, beaucoup de conviction, voyez-vous. C'est comme dans la vie, sinon ça passe pas tout. Comme ça. 3, 4, ça. Ça m'a fait peur ce qui vient de se passer. Oui. 3, 4, ça, c'est que tu vois, plus fort,
l'enfant qu'il y a en moi.
Ah oui, plus fort.
C'est que je vois l'enfant qu'il y a en toi.
C'est ça, oui, encore.
C'est que tu vois l'enfant qu'il y a en moi. C'est que je vois.
Édition du Printemps de Bourges, le premier festival de la saison, avec bien sûr en tête d'affiche des grands noms de la chanson française, Juliette Armanet, Mathieu Chédid, Benjamin Biolay. Le Printemps de Bourges, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux talents qui commencent leur carrière. Venez, je vous emmène pour les découvrir. Sous le grand chapiteau, la scène principale du festival, une guerrière s'apprête à conquérir son public. Voici Kalika.
Je suis en train d'installer toute ma scéno pour le nouveau show que je vais jouer pour une des premières fois ce soir, du coup, au Printemps de Bourges au W. Donc, c'est un truc de fou parce que c'est la plus grosse scène que j'ai faite. Et j'ai joué déjà au Printemps de Bourges l'année dernière et c'était sur une petite scène et tout, donc je suis trop contente d'être là à nouveau. J'ai une façon de parler qui est assez crue de par là où j'ai grandi, de ma famille, etc. Et que du coup, j'ai toujours assumé de parler comme je parle. Et tout en essayant justement d'être cru sans être vulgaire. Hypersexualisation, des fois c'est pour dénoncer justement comment on nous voit, nous les meufs, jeunes meufs, etc. Et donc parfois, oui, je peux en jouer pour dénoncer des choses.
Bientôt, un premier album et une tournée. Mais au fond, avant ces concerts, à quoi pense-t-elle ?
Et je pense que les trucs méchants qu'on m'a dit quand j'étais petite et tout, ça me... c'est bizarre, mais ça me booste parce que maintenant je me dis, regarde, non, t'es là et il faut leur donner tort. C'est la revanche, complètement. Mais toujours avec amour, hein. Je suis pas de haine.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. J'espère que tout va bien chez vous. Ah, il fait très beau et ça sent le printemps. Si vous avez envie de faire une petite balade dans la région de Niagara, notre partenaire et toute l'équipe, la belle équipe de Sophie Franc vous y attend. Sophie Franc qui milite pour les droits des femmes et des immigrants francophones dans la région de Niagara et Welland. Vous donne rendez-vous ce dimanche 30 avril avec Cupcake en folie, une activité culinaire, éducative, amusante et récréative destinée aux enfants de 2 à 12 ans. Et oui, c'est de 14h à 17h au Holy Trinity Church, 77 Division Street, Welland. Pour info, 905-714-7333 ou encore le 905-226-5282. D'ailleurs, vous retrouvez tous les détails sur notre site web, popourichaud.com. Allez, allez-y, faites un tour. Petite balade dans le Niagara. Ça fait du bien. Hein. Merci du fond du cœur à ceux et celles qui ont déjà fait un don à notre émission. Allez sur notre site pour avoir tous les détails, mais aussi le nouveau lien popourrishow.com. Et là, vous retrouverez le lien pour faire un don en toute sécurité. Merci mille fois. Merci à Emmanuel Kerad, la librairie francophone, DJ d'Ouverage. Joyeux anniversaire à Sloane Ballon, notre bénévole et stagiaire avec un cœur en or. On se voit très bientôt, mon cher ami. Ici Eric Adair, je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un hommage spécial à Harry Belafonte, que j'ai déjà rencontré à Montréal lors d'un spectacle. Chanteur américain inlassable, militant pour les droits civiques, qui est décédé mardi 25 avril. Allez, je vous laisse avec Ghetto Kids de l'Ouganda que nous avons entendu au début de l'émission, que nous entendrons tout au long du printemps et de l'été. Les enfants des rues devenus stars. Bon printemps. Ciao, ciao, ciao.
Ghetto Kids. Uganda. Africa. Sangopos.
Bala si fa yomboke fete tuniga tuero ke mbigerenga to bate twamba pena bana basketo te wenyo maba mugeto te twaba mugeto dona su lo ya keto bati na digeto inadigeto happy indigeto inadigeto bati indigeto inadigeto happy indigeto inadigeto kasi kasi mwana Tuwato mwana kwe, mwana woti
right.
Tusa woti Ghetto life ok There is ok Talenti mugeto No stress mugeto Party na di ghetto Ina di ghetto Happy in di ghetto Ina di ghetto Party in di ghetto Ina di ghetto Happy in di ghetto Ina di ghetto Kusuma chance ujifunye kwetoko You are going to win For real Ghetto people hustle Don't quit It's time to shine We're born to win Time to say mwana
ghetto. The way you mama mu ghetto. Be to mama mu ghetto. You ne su mi loya ghetto. Ken funye kendia nembo ke inyambala sifa yombo ke. Fete chumiga tuwero kembi gerenga yo bate to mama te. Bona what? Tu sa what? Fe no tunyumi riot. Ebi tunyiga tuwayo mu ghetto. Fatina.